Le journal de George Fox 1656-1657 en route pour l'Écosse. Page 2. À cette époque, les prêtres et les docteurs étaient fortement opposés à la lumière de Jésus-Christ. Ils niaient qu'elle fût donnée universellement à tous les hommes et niaient l'effusion de l'Esprit sur toute l'humanité, par laquelle les fils et les filles prophétisaient. Ils s'efforçaient, de tout leur pouvoir, d'obscurcir l'esprit des gens, afin de pouvoir les maintenir dépendants de leur enseignement. Pour cette raison, le Seigneur me poussa à publier les lignes suivantes pour l'ouverture de l'esprit et de l'intelligence des gens, et pour manifester l'aveuglement et les ténèbres de leurs enseignants, à vous tous croyants prêtres et enseignants qui êtes dans les ténèbres, et qui ne connaissez pas l'esprit en prison, ni la lumière qui brille dans les ténèbres ne saisissent pas, mais qui êtes les infidèles que le Dieu de ce monde a aveuglés, et à qui l'Évangile est caché. Car bien que vous ayez les quatre livres du Nouveau Testament appelés « Évangile », le véritable Évangile vous est caché, vous vous étonnez maintenant de l'œuvre de Dieu, et ne croyez pas que Christ ait éclairé toute personne venant dans le monde. Je vous propose quelques écritures à lire, qui éprouveront vos esprits et les mettront à l'épreuve, pour montrer combien ils sont contraires à l'esprit des apôtres, à l'esprit de Christ et des saints. Christ est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pie 3:19. Que celui qui l'y comprenne si cela était une mesure de l'esprit, oui ou non, ou l'esprit sans mesure qu'il leur a communiqué. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3:34. Ici Christ n'avait pas l'esprit donné avec mesure. L'apôtre a dit, nous ne nous glorifierons pas de ce qui est sans ou au-delà de notre mesure. 2 Cor 10:13. Ainsi, ici il y avait mesure et non avec mesure. Christ qui n'a pas reçu l'esprit avec mesure, dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui les conduirait dans toute la vérité, car il ne parlerait pas de lui-même, mais dirait tout ce qu'il entendrait, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16:13-14. Prenez garde, lisez et apprenez, le Consolateur prendra de ce qui est à moi, dit Christ, et vous l'annoncera, celui qui a la mesure reçoit de celui qui n'a pas avec mesure. Le Consolateur, quand il viendra, doit convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16:8. Maintenant, considérez la grande œuvre de Dieu, l'Esprit de vérité, qui conduit les saints dans toute la vérité, qui reçoit de ce qui est à Christ et le montre aux disciples, qui sont dans la mesure, doit convaincre le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Le Consolateur que Christ enverra prend de ce qui est à lui et le montre aux disciples, le même convainc le monde. Considérez maintenant si ceci est une mesure, oui ou non, qui vient de celui qui n'a pas reçu son esprit avec mesure, celui qui conduit le croyant dans toute la vérité convainc l'incrédule dans le monde de péché, de justice et de jugement. Celui qui est conduit dans toute la vérité voit ce qui est repris, par l'esprit de vérité qui le conduit. Christ a dit, « Il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Est-ce une mesure, oui ou non, venant de celui à qui Dieu a donné l'esprit sans mesure ?» De nouveau, le Seigneur a dit, tant par son prophète Joël 2:28 que par son apôtre dans Actes 2:17-18, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et je répandrai en ces jours-là de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servants, et ils prophétiseront. » Voyez, vous les trompeurs, ici le Seigneur a dit qu'il répandra de son esprit. Remarquez la parole, l'esprit du Seigneur sur toute chair. Quoi, les jeunes gens, les vieillards, les fils et les filles, et les servantes, tout cela pour recevoir l'esprit de Dieu répandu sur eux, ici, disent-ils, ceci nie donc les moyens. Non, c'est cela le moyen. Et le grand et notable jour du Seigneur vient, où il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Dieu des esprits de toute chair est connu, et dit l'apôtre, qui ne voulait pas se glorifier de choses au-delà de sa mesure, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a manifesté. Romains 1:19. Par ce qui était de Dieu, manifeste en eux, ils connaissaient la cupidité, la malice, le meurtre, la tromperie et l'impiété. Ils savaient que les jugements de Dieu étaient sur de telles choses, et qu'ils étaient dignes de mort, non seulement ceux qui commettaient de tels actes, mais aussi ceux qui prenaient plaisir à ceux qui les commettaient. C'est pourquoi, dit l'apôtre, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Or, ce qui est de Dieu manifeste en eux, que Dieu leur a montré, par quoi ils connaissent l'injustice et les jugements de Dieu à son sujet, et que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, est-ce une mesure, oui ou non, qui est de Dieu et qu'il leur a montré. Qu'était-ce en eux qui faisaient naturellement les choses contenues dans la loi, montrant l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Romains 2:14-15. Remarquez, écrite, cela ne jugera-t-il pas ceux qui ont la loi extérieure, mais sont hors de sa vie? L'apôtre a dit, la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour l'utilité commune. 1 Cor 12:7. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, la manifestation en est donnée à chaque homme pour l'utilité commune. Remarquez, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre des dons de guérison par le même esprit, un autre l'opération de miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses sortes de langues, un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les opère, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Remarquez cela, à chaque homme diversement comme il veut. De nouveau, l'apôtre a dit, « La grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre, dans le présent siècle, avec sagesse, justice et piété. » Tite 2, 11-12. « Or vous qui vous détournez de cette grâce qui apporte le salut pour aller dans la convoitise, vous la niez, et vous dites que ce qui enseigne les saints, qui sont sauvés par la grâce, n'est pas apparu à tous les hommes. » Jude a dit, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont impiement commis et de toutes les paroles dures que des pécheurs impies ont proférées contre lui. » Jude 1, 14-19. Remarquez encore ici, celui qui vient avec ses saintes myriades pour convaincre tous de leurs actes impies et de leurs paroles dures, ici il est dit « tous leurs actes impies » et toutes leurs paroles dures, rien n'est omis, mais tous doivent être convaincus et jugés, le monde étant repris par celui qui vient avec ses saintes myriades, et qui régnera et sera roi et juge. Et n'avez-vous pas tous quelque chose en vous qui vous reprend pour vos paroles dures et vos actes impies, les plus impies d'entre vous, qui vivez dans vos paroles dures contre lui, et contre sa lumière et son apparition spirituelle dans son peuple? De nouveau, l'apôtre, écrivant aux gentils, a dit, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » F 4-7. Or remarquez, voici la mesure du don de Christ, qui éclaire tout homme venant dans le monde, Jean 1-9, afin que tous par lui croient. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est condamné. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, Jean 3-18-19. Or chaque homme venant au monde étant éclairé, l'un l'aime et amène ses œuvres à la lumière, afin qu'avec la lumière il voit si elles sont inspirées par Dieu, l'autre est la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Il ne veut pas amener ses œuvres à la lumière, parce qu'il sait que la lumière le reprendra. Ainsi celui qui est la lumière dont Christ l'a éclairé, parce qu'il sait que la lumière le reprendra pour ses mauvaises œuvres, ne vient pas à la lumière. De nouveau, le Seigneur, par son prophète, a dit au sujet de Christ, « Je l'établis pour être la lumière des nations, afin qu'il soit mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49:6. Et à quoi les enfants désobéissants sont-ils désobéissants, c'est-à-dire ces enfants désobéissants qui marchent selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance, à quoi donc sont-ils désobéissants, F 2-2. Remarquez et lisez vous-même, vous qui, étant désobéissants, marchez selon le cours de ce monde, selon la puissance du prince de l'air, remarquez, dis-je, à quoi tous ceux-là sont désobéissants, que celui qui a des oreilles entende. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, « La colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. » Col 3, 6. Allons, vous les croyants, voyons, n'est-ce pas là quelque chose de Dieu qui a désobéi? N'est-ce pas ce qui est de Dieu manifeste en eux que Dieu leur a montré et qui leur fait voir que les jugements de Dieu sont sur de tels actes quand ils agissent injustement? N'est-ce pas la mesure de Dieu, l'esprit en prison, et l'esprit de Dieu qui est attristé? Et vous, docteur, allons, lisons la parabole des talents, et réglons nos comptes avec vous, pour voir qui est celui qui a caché l'argent du Seigneur dans la terre. Venez, vous qui avez gagné, entrez dans la joie de votre maître. Allez, vous qui avez caché l'argent du Seigneur dans la terre, dans les ténèbres du dehors, ôtez-le-lui, et donnez-le à celui qui a. Chaque homme aura sa récompense, car le Seigneur a donné à chaque homme selon sa capacité. Matt 25, 15. Remarquez, à chaque homme selon sa capacité. Lisez cela si vous le pouvez. Or le Seigneur vient pour demander compte à chaque homme individuellement, à qui il a donné individuellement, selon sa capacité. Maintenant le serviteur méchant et paresseux, qui a caché l'argent du Seigneur dans la terre, sera découvert, et l'argent du Seigneur lui sera ôté, bien qu'il l'ait caché. Pour lui, les commandements du Seigneur ont été pénibles, mais pour nous, ils ne le sont pas, nous qui aimons Dieu et gardons ses commandements. Et, dit l'apôtre aux Romains, « Je dis par la grâce qui m'a été donnée, à chacun de vous qui êtes parmi vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de penser avec sobriété, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Rome 12:3. Lisez et remarquez, voici une mesure de foi. Et, dit un autre apôtre, « Comme chacun a reçu un don, mettez-le au service les uns des autres, comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. » 1 Pie 4:10. Car la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Or les bons intendants peuvent rendre leur compte avec joie, mais vous, mauvais intendants, qui vous détournez de la grâce de Dieu pour aller dans la convoitise, vous serez comptés avec les autres, vous aurez votre récompense. Mais dit le monde, faut-il que chacun exerce un ministère selon le don qu'il a reçu? Oui, dis-je, mais qu'il parle comme les oracles de Dieu, et qu'il le fasse selon la force que Dieu fournit. 1 Pie 4:11. Jean dans l'Apocalypse a dit, ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Apocalypse 20:13. Christ a dit, toute parole oiseuse que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. Matthieu 12:36. Vous qui nommez le nom de Christ, éloignez-vous de l'iniquité. 2 Tim 2:19. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16:27. Celui qui est parti dans un pays lointain et qui a donné des talents à chacun de vous, selon vos diverses capacités, rendra à chacun selon ses œuvres. Rome 2:6. Et je vous dis encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Rome 8:9-10. Que la lumière donc, qui vient de Christ, examine, car le Seigneur apparaît. Vous qui avez reçu selon votre capacité, ne battez pas vos compagnons de service pensant que le Seigneur tarde longtemps à venir. Ne soyez pas comme ceux qui disaient « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». L'apôtre dit aux Éphésiens que cette grâce lui a été donnée, afin de mettre en lumière pour tous quelle est la communion du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3:9. Lisez et comprenez, chacun avec la lumière qui vient de Christ, le mystère, qui sera votre condamnation si vous n'y croyez pas. Ceci s'adresse à tous ceux qui trébuchent devant l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la manifestation de la lumière, donnée à chaque homme pour l'utilité commune. Venez, vous les docteurs, qui trébuchez à son sujet, lisons les paraboles. Un semeur sortit pour semer, et une partie de la semence tomba le long du chemin, une partie sur un sol pierreux, une partie sur un terrain épineux, la semence est la parole, le Fils de l'homme est le semeur, que celui qui a des oreilles entende. Matthieu 13:3-43. Maintenant voyez, vous tous les docteurs, quel terrain êtes-vous et qu'avez-vous produit? Et si le méchant semeur n'a pas semé sa semence dans votre terrain? Que celui qui a des oreilles l'entende. Et venez lire une autre parabole, celle du maître de maison qui embauche des ouvriers pour la vigne et s'accorde avec chacun pour un denier. Matthieu 1:20. Chacun doit avoir son denier, le dernier rentré comme le premier, et les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car beaucoup sont appelés mais peu sont choisis. Que celui qui a des oreilles entende. Il y a une promesse faite à Caïn, s'il faisait bien, il serait agréé. Gênesis 4:7. Et Ésaü avait un droit d'aînesse, mais il l'a méprisé. Pourtant ce n'est pas de celui qui veut. Rome 9:16. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. Et tenez-vous tranquille et voyez votre salut. Exode 14:13. Et vous qui êtes enfants de lumière, revêtez l'armure de lumière, afin de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que vous ne soyez plus des enfants, ballottés çà et là. Éphésiens 4:13-14. Le Seigneur a dit qu'il ferait une nouvelle alliance, en écrivant sa loi dans le cœur des gens et en mettant son esprit au-dedans d'eux, par quoi tous viendraient à connaître le Seigneur, par qui le monde a été fait. Maintenant, que chacun de vous s'assure que la loi est écrite dans vos cœurs et que cet esprit est mis au-dedans de vous, afin qu'il ne soit pas besoin de vous dire « Connais le Seigneur », mais que vous puissiez être témoin de la promesse de Dieu accomplie dans vous. Mais disent le monde et les docteurs, si chacun doit venir à témoigner que la loi de Dieu est écrite dans son cœur et que l'esprit est mis au-dedans, que ferons-nous de tous nos enseignants, à mesure que nous venons à en être témoins? Nous n'avons besoin d'aucun homme pour nous enseigner à connaître le Seigneur, ayant sa loi écrite dans nos cœurs et son esprit mis au-dedans de nous. C'est l'alliance de vie, l'alliance éternelle, qui ne se corrompt pas et ne change pas, et voici le chemin vers le Père, sans lequel nul ne vient au Père. Voici le sacerdoce éternel, la fin de l'ancien sacerdoce dont les lèvres devaient garder la connaissance, mais maintenant dit Christ, apprenez de moi, lui qui est le souverain sacrificateur du nouveau sacerdoce. Et dit l'apôtre, afin que vous croissiez dans la connaissance de Jésus-Christ, en qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ainsi nous sommes détournés de l'ancien sacerdoce, qui changeait, pour aller à Christ, vers le nouveau sacerdoce, qui ne change pas, détournés de la première alliance, qui se corrompt, vers l'alliance éternelle, qui ne se corrompt pas, Christ Jésus, l'alliance de lumière, de qui chacun de vous a une lumière, afin que vous puissiez croire en l'alliance de lumière. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamnés, car la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Je suis venu comme une lumière dans le monde, dit Christ, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière de la vie. Jean 12, 46. Croyez en la lumière afin que vous soyez enfants de lumière. Vous qui ne croyez pas en la lumière, mais la haïssez parce qu'elle manifeste que vos œuvres sont mauvaises, vous êtes condamnés par la lumière, ainsi tant que vous avez du temps estimé là. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver et invoquez le temps qu'il est proche, afin d'éviter de dire « le temps est passé », car le temps du riche glouton était passé. Donc, tant que le temps n'est pas tout à fait passé, considérez, examinez-vous, et voyez si vous n'êtes pas de ceux qui haïssent la lumière, et sont ainsi des bâtisseurs qui trébuchent sur la pierre angulaire, car ceux qui haïssaient la lumière et ne croyaient pas en la lumière faisaient ainsi dans les siècles passés. « Je suis la lumière du monde, dit Christ, qui, dit l'apôtre, éclaire tout homme venant dans le monde. Christ a aussi dit, apprenez de moi, et de lui Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, voici votre maître. Mais vous qui haïssez la lumière n'apprenez pas de Christ et ne voulez pas l'avoir pour roi afin qu'il règne sur vous, lui à qui tout pouvoir est donné au ciel et sur la terre, qui porte le gouvernement sur ses épaules, qui est maintenant venu pour régner, qui éclaire tout homme venant dans le monde, et qui donnera à chacun une récompense selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ainsi chaque homme, avec la lumière qui vient de Christ, verra ses œuvres, tant celui qui l'a que celui qui l'aime. Et celui qui ne veut pas amener ses œuvres à la lumière, parce que la lumière le reprendra, voilà sa condamnation, et il aura une récompense selon ses œuvres. Car le Seigneur est venu pour juger avec vous, et il cherche du fruit, et maintenant la hache est mise à votre racine, et chacun de vos arbres qui ne porte pas de bons fruits doit être abattu et jeté au feu. George Fox, commentaire de l'éditeur du site, beaucoup de ministres et de prêtres du protestantisme argumentent contre les Écritures suivantes et en tordent le sens. Qui était la vraie lumière, laquelle éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1:9 Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour l'utilité commune. 1 Cor 12:7 Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes 2:14-18 Il s'obstine à ne pas croire que les Écritures ci-dessus s'appliquent à chaque homme. Pourquoi? Parce qu'alors il n'y a plus de différence entre les pécheurs de leur secte et les pécheurs hors de leur secte. Ils perdent leur distinction imaginaire, distinction qui existe parce qu'ils nient la possibilité d'être un jour libérés du péché. Si chaque homme dans le monde a la lumière, et si chaque homme dans le monde a reçu l'Esprit, alors qu'ont les sectes à offrir rien. Car elles ne sont qu'une forme de piété sans la puissance de changer un homme pour le rendre pieux, pur, saint, propre et parfait. Et ainsi, vous lirez dans ce livre comment les faux prophètes combattent constamment les Écritures qui attestent que la lumière et l'Esprit sont en chaque homme. Nier la lumière, c'est nier plus de 100 Écritures, cliquez pour voir qui parle d'une lumière spirituelle surnaturelle. Après être resté quelque temps à Londres, et avoir visité les réunions des amis dans la ville et aux environs, et m'être acquitté de tout service que le Seigneur m'avait alors confié là, je quittai la ville et voyageai dans le Kent, le Sussex et le Surrey, visitant les amis, parmi eux j'eus de grandes réunions, et rencontrai souvent l'opposition des baptistes et d'autres docteurs crêleurs, mais la puissance du Seigneur les dominait. Nous passâmes une nuit à Farnham, où nous eûmes une petite réunion. Les gens étaient extrêmement grossiers, mais à la fin, la puissance du Seigneur prit le dessus sur eux. Après la réunion, nous allâmes à notre auberge et fîmes savoir que tous ceux qui craignaient Dieu pouvaient venir à notre auberge nous voir. Beaucoup de gens grossiers vinrent, avec les magistrats de la ville et quelques docteurs. Je leur déclarai la vérité, et les gens qui se comportaient grossièrement furent chassés de la chambre par les magistrats. Quand ils furent partis, une autre bande grossière de docteurs arriva, ainsi que quelques-uns des pires de la ville. Ils demandèrent du bois et à boire, bien que nous leur ayons dit de ne pas le faire. C'étaient des gens aussi grossiers que j'en ai jamais rencontrés. La puissance du Seigneur les enchaîna, de sorte qu'ils n'avaient pas le pouvoir de nous faire du mal, mais quand ils s'en allèrent, ils laissèrent tout le bois et la bière qu'ils avaient demandé dans la chambre pour que nous les payions le matin. Nous montrâmes à l'aubergiste combien il était indigne de nous le faire payer, mais il nous dit « il faut payer » et nous payâmes. Avant de quitter la ville, j'écrivis aux magistrats et aux principaux de la ville, ainsi qu'aux prêtres leur montrant, à eux et à lui, comment il avait enseigné son peuple, et exposant devant eux leur conduite grossière et incivile envers des étrangers qui cherchaient leur bien. En quittant cet endroit, nous arrivâmes à Basingstoke, une ville très grossière, où ils avaient auparavant été très injurieux envers les amis. J'y eus une réunion le soir, qui fut paisible, car la puissance du Seigneur enchaîna les indisciplinés. À la fin de la réunion, je fus poussé à ôter mon chapeau et à prier le Seigneur d'ouvrir leur intelligence. Sur la base de cet événement, ils répandirent un bruit, que j'avais ôté mon chapeau devant eux et leur avais souhaité bonne nuit, ce qui n'a jamais été dans mon cœur. Après la réunion, nous allâmes à notre auberge, et j'envoyai chercher l'aubergiste, comme je le faisais d'habitude. Il vint dans la chambre avec nous et se montra fort grossier. Je l'exhortai à être sobre et à craindre le Seigneur, mais il demanda du bois et une pinte de vin, et la but lui-même, puis il en demanda une autre et fit monter une demi-douzaine d'hommes dans notre chambre. Alors je lui dis de sortir de la chambre et qu'il ne devait pas boire dans notre chambre, car nous l'avions fait venir pour lui parler au sujet de son bien éternel. Il était extrêmement furieux, grossier et ivre. Comme il persistait dans sa grossièreté et ne voulait pas partir, je lui dis « La chambre est à moi pour le temps que j'y loge », et je demandai la clé. Alors il s'en alla en rage. Le matin, il fit même une apparition, mais je dis à sa femme combien sa conduite envers nous avait été peu chrétienne. Après cela, nous allâmes à Bridport en ayant des réunions en chemin. Nous allâmes à une auberge et envoyâmes en ville une demande pour rencontrer ce qui craignait Dieu. Un boutiquier, avec un docteur, arriva, qui ôta son chapeau devant nous. Quand il vit que nous n'ôtions pas nos chapeaux devant lui et que nous lui disions « Die thou », il nous dit qu'il n'était pas de notre religion, et après quelques échanges, il s'en alla. Au bout d'un moment, il nous envoya un message à l'auberge nous demandant de venir chez lui afin que quelques personnes puissent parler avec nous. Thomas Curti alla chez lui. Quand Thomas arriva, il trouva l'homme avec le prêtre et les magistrats, et ils se vantèrent grandement d'avoir attrapé George Fox, prenant Thomas pour moi. Quand ils reconnurent leur erreur, ils se mirent très en colère. Pourtant, la puissance du Seigneur les domina, de sorte qu'ils le laissèrent repartir. Pendant ce temps, j'eus l'occasion de parler à quelques gens sérieux qui vinrent à l'auberge. Lorsque Thomas fut revenu et que nous sortions de la ville, quelques-uns des gens sérieux vinrent à nous et dirent « Les officiers viennent pour m'arrêter, mais la puissance du Seigneur était sur eux, de sorte qu'ils n'eurent aucun pouvoir pour me toucher. » Il y eut dans la ville quelques personnes convaincues qui se tournèrent vers le Seigneur et qui sont demeurées fidèles dans leur témoignage à la vérité depuis lors, et une belle réunion y est établie. De là, nous visitâmes Portsmouth et Poole, où nous eûmes de glorieuses réunions, et beaucoup se tournèrent vers le Seigneur. À Ringwood, nous eûmes une grande réunion générale, où la puissance du Seigneur fut sur tous. À Weymouth, nous eûmes une réunion, et de là nous voyageâmes par Dorchester jusqu'à Lyme, où l'auberge où nous allâmes était occupée par des colporteurs de remèdes, si bien qu'il y avait à peine de la place pour nous ou pour nos chevaux. Le soir, nous rédigeâmes quelques questions concernant l'origine de toutes les maladies, et la nature et les vertus des remèdes naturels pour la santé, et les envoyâmes à ces charlatans, leur faisant savoir, s'ils n'y répondaient pas, nous les clouerions sur la croix du marché le lendemain. Cela les fit descendre de leur superbe et les calma, car ils ne pouvaient y répondre, mais le matin, ils discutèrent un peu avec nous. Nous laissâmes les questions à quelques personnes amies, convaincues dans la ville, pour les afficher sur la croix du marché. La puissance du Seigneur atteignit quelques gens sérieux en ce lieu, qui furent tournés, par la lumière et l'Esprit de Christ, vers son libre enseignement. Nous voyageâmes ensuite jusqu'à Exeter, et au Seven Star, une auberge au pied du pont, nous eûmes une réunion générale des amis venus des Cornouailles et du Devonshire, à laquelle vinrent Humphrey Low, Thomas Low et John Ely du Land's End, Henry Pollexfen, avec des amis de Plymouth, Elizabeth Trelawney et bien d'autres amis. Nous eûmes une réunion céleste et bénie, et la puissance éternelle du Seigneur vint sur tous. Dans la réunion, je vis et dis que la puissance du Seigneur avait entouré cette nation comme d'un mur et d'un rempart, et que sa semence s'étendait de mer à mer. Les amis furent établis dans la semence éternelle de vie, Christ Jésus, leur vie, rocher, maître et berger. Le lendemain matin, le major Blackmore envoya des soldats pour m'appréhender, mais j'étais parti avant leur arrivée. Comme je remontais la rue à cheval, je vis les officiers qui se rendaient à mon bureau. Ainsi le loup manqua l'agneau, et le Seigneur contraria leur dessein, et les amis s'en allèrent paisiblement et tranquillement. Les soldats interrogèrent quelques amis après mon départ, que faisaient-ils là, mais lorsqu'ils leur dirent qu'ils étaient à leur auberge et avaient des affaires en ville, ils s'en allèrent sans les importuner davantage. D'Exeter, je tins des réunions au fur et à mesure de mon chemin, jusqu'à arriver à Bristol, et j'assistai à la réunion qui s'y tenait. Une fois terminée, je ne restai pas en ville, mais passai au pays de Galles, et eus une réunion à la Sloane. De là, allant à Cardiff, un juge de paix m'envoya dire qu'il désirait que je vienne chez lui avec une demi-douzaine de mes amis. Je pris donc un ami ou deux et j'allai le voir, lui et sa femme nous reçurent très civilement. Le lendemain, nous eûmes une réunion à Cardiff, dans l'hôtel de ville, à laquelle ce juge envoya environ 17 personnes de sa maison. Quelques perturbateurs y vinrent, mais la puissance du Seigneur les domina, et beaucoup se tournèrent vers le Seigneur. Il y en avait quelques-uns qui avaient suivi James Naylor et ne venaient pas aux réunions. Je leur fis dire que le jour de leur visitation était passé, et ensuite ils ne prospérèrent jamais. Nous voyageâmes de Cardiff à Swansea, où nous eûmes une réunion bénie, et une réunion y fut établie au nom de Jésus. En chemin, nous traversâmes la rivière dans une barque avec le grand shérif du comté. Le lendemain, j'allais lui parler, mais il refusa. Nous allâmes à une autre réunion à la campagne, où la présence du Seigneur fut beaucoup avec nous. De là, nous allâmes chez un grand personnage qui nous reçut très affectueusement, mais le lendemain matin, il ne voulut pas se montrer. Après notre réunion, quelqu'un était venu le voir et l'avait tellement éloigné de nous que nous ne pûmes plus lui parler, tant il avait changé. Nous traversâmes les contrées, tenant des réunions et rassemblant des gens au nom de Christ, vers lui leur maître céleste, jusqu'à ce que nous arrivions à Brecknock, où nous logeâmes nos chevaux dans une auberge. Thomas Holm et John Upjohn voyagèrent là avec moi, et John Upjohn fut poussé par le Seigneur à parler dans les rues. Je marchai un peu dans les champs, et quand je revins, la ville était en tumulte. Lorsque j'entrai dans la chambre de l'auberge, elle était pleine de monde, et ils parlaient en gallois. Je leur demandai de parler en anglais ce qu'ils firent, et nous eûmes une longue discussion. Au bout d'un moment, ils s'en allèrent. Mais vers la nuit, les magistrats s'assemblèrent dans les rues avec une multitude de gens, et les magistrats leur dirent de crier, ce qui souleva toute la ville. Ainsi, pendant environ 2 heures d'affilée, les cris firent un vacarme au-delà de tout ce que nous avions jamais entendu, et quand ils se furent lassés de crier, les magistrats leur dirent de continuer à crier. Nous pensions que cela ressemblait au tumulte mentionné dans les Actes parmi les artisans de Diane. Ce tumulte continua jusqu'à la nuit, et si la puissance du Seigneur ne les avait pas limités, ils auraient probablement mis la maison et nous-mêmes en pièces. La nuit, la femme de la maison voulut que nous allions souper dans une autre pièce, mais, discernant son stratagème, nous refusâmes. Puis elle essaya de nous faire accepter qu'une demi-douzaine d'hommes entrent dans la chambre avec nous, sous prétexte de s'entretenir avec nous. Nous lui dîmes qu'aucune personne ne devait entrer dans notre chambre cette nuit-là, et que nous n'allions pas les rencontrer. Alors elle dit que nous devrions dîner dans une autre pièce, mais nous lui répondîmes que, si nous ne mangions pas dans notre chambre, nous n'aurions pas de souper. Finalement, quand elle vit qu'elle renonçait à nous faire quitter la chambre, elle nous servit enfin le souper dans notre chambre. Ainsi elle et eux échouèrent dans leur plan, car ils avaient l'intention de nous faire du mal, mais le Seigneur les en empêcha. Le lendemain matin, j'écrivis un papier à la ville au sujet de leur conduite peu chrétienne, montrant les fruits de leurs prêtres et de leurs magistrats. Et en sortant de la ville, je parlai aux gens et leur dis qu'ils étaient une honte pour le christianisme et la religion. De cet endroit, nous allâmes à une grande réunion dans la cour d'une église, où se trouvait un prêtre, Walt Jenkins, qui avait été juge, et un autre juge. Nous eûmes une réunion bénie et glorieuse. Comme il y avait beaucoup de docteurs, je fus poussé par le Seigneur à leur ouvrir les Écritures et à répondre aux objections auxquelles ils butaient dans leur profession, car je les connaissais très bien. Et à les tourner vers Christ qui les avait éclairés, afin qu'avec cette lumière ils puissent voir les péchés et les transgressions dans lesquels ils avaient été morts, et leur Sauveur qui était venu les en racheter, celui qui devait être pour eux le chemin vers Dieu, la vérité et la vie, et leur prêtre élevé au-dessus des cieux, afin qu'ils puissent venir s'asseoir. Nous eûmes une réunion paisible, et beaucoup furent convaincus et établis dans la vérité ce jour-là. Après la réunion, j'allai avec Walt Jenkins chez l'autre juge, qui me dit « Vous avez aujourd'hui donné grande satisfaction au peuple et répondu à toutes les objections qu'il avait à l'esprit. » Car les gens avaient les Écritures, mais ils n'étaient pas tournés vers l'Esprit, qui leur aurait fait voir que ce qui les avait prononcés, c'était l'Esprit de Dieu, qui est la clé pour les ouvrir. De là, nous passâmes chez Richard Hanbow à Pontmoyle, où nous eûmes une grande réunion. Un autre juge et plusieurs personnes influentes vinrent à la réunion, leur intelligence fut ouverte par l'Esprit et la puissance du Seigneur et par la lumière de Jésus-Christ, et ils furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ d'où elle venait. Il y eut une grande conviction, une grande réunion est rassemblée dans ces régions et établie au nom de Jésus. Après cela, retournant en Angleterre, nous arrivâmes à Shrewsbury, où nous eûmes une grande réunion, et nous visitâmes les amis dans toute la contrée à leur réunion, jusqu'à ce que nous arrivions chez William Gandy, dans le Cheshire, où nous eûmes une réunion de 2 à 3 000 personnes, à ce qu'on estima, et la parole éternelle de vie fut présentée et reçue ce jour-là. Ce fut une réunion bénie, car les amis furent établis par la puissance de Dieu sur Christ Jésus, le rocher et le fondement. À cette époque, il y avait une grande sécheresse, et après que cette réunion générale y fut terminée, il plut si fort que les amis dirent qu'ils pensaient que nous ne devrions pas voyager parce que les eaux seraient si hautes. Mais je crus que la pluie n'était pas tombée au-delà du terrain où les amis avaient voyagé en venant ce jour-là à la réunion. Le lendemain après-midi, lorsque nous retournâmes dans certaines régions du pays de Galles, les chemins étaient poussiéreux, et aucune pluie n'était tombée dans la région. On notait généralement, parmi les gens que, chaque fois que je venais leur rendre visite, j'apportais la pluie avec moi, et cela était ainsi depuis de nombreuses années. Lorsque Oliver Cromwell, pendant une très grande sécheresse, publia une proclamation pour un jeûne en vue d'obtenir de la pluie dans toute la nation, on observa que, dans la mesure où la vérité s'était répandue dans le nord, il y avait d'agréables averses et suffisamment de pluie, tandis que le sud, où la vérité ne s'était pas répandue en de nombreux endroits, était presque ruiné faute de pluie. À ce moment-là, je fus poussé à écrire une réponse à la proclamation du protecteur, dans laquelle je lui dis que s'il avait voulu reconnaître la vérité de Dieu, il aurait eu de la pluie, et que la sécheresse était pour eux un signe de leur stérilité et de leur manque de l'eau de la vie. Outre-mer, s'il y avait une sécheresse, on attendait généralement une réunion générale quake dans la région, parce qu'on savait qu'alors il y aurait de la pluie. À mesure qu'ils recevaient la vérité et devenaient féconds pour Dieu, ils recevaient aussi de lui leur saison fertile. À peu près au même moment, j'écrivis le papier suivant pour distinguer entre les vrais et les faux jeûnes. Concernant le vrai jeûne et le faux, à vous tous qui observez des jeûnes, qui frappez du poing de la méchanceté, et jeûnez pour la crêle et la dispute, contre vous la voix a crié à haute voix, comme une trompette, afin que vous veniez à connaître le vrai jeûne qui est agréé, et le jeûne qui est dans la crêle et la dispute, et le fait de frapper du poing de la méchanceté, jeûne qui n'est pas requis par le Seigneur. Voici, au jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos plaisirs, et vous exigez tout votre travail, voici vous jeûnez pour la crêle et la dispute, et pour frapper du poing de la méchanceté, vous ne jeûnerez pas comme vous le faites aujourd'hui pour faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, dit le Seigneur, un jour où l'homme afflige son âme? Est-ce pour courber la tête comme un roseau, et étendre un sac sous lui? Appellerez-vous cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur? Considérez, vous tous qui jeûnez, voyez si ce n'est pas laisser pendre la tête un jour comme un roseau, et jeûner pour la crêle et la dispute, et frapper des poings de la méchanceté pour faire entendre votre voix là-haut. Mais un jeûne n'est pas agréé du Seigneur, à moins qu'il ne vous conduise hors de la crêle, hors de la dispute et hors de la méchanceté, ce qui n'est pas courber la tête comme un roseau un jour, tout en vivant dans la tyrannie et le plaisir. Cela n'est pas agréé du Seigneur, à moins que le jeûne ne vous sépare de tout ce qui a été mentionné ci-dessus. Ce qui sépare de là, méchanceté, dispute, crêle, plaisir, frapper des poings de la méchanceté, conduit à connaître le vrai jeûne, qui brise les liens de l'iniquité et donne du pain à l'affamé, fait entrer dans sa maison les pauvres sans asile, et lorsqu'il voit quelqu'un nu, il le couvre, et ne se détourne pas de sa propre chair. Voici le vrai jeûne, qui sépare de ceux chez qui les liens de l'iniquité demeurent, les lourds fardeaux des opprimés subsistent, et le joug n'est pas brisé, qui ne donne pas du pain à l'affamé, et n'accueille pas le pauvre dans leur maison, qui voit le nu mais le laisse sans vêtements, et se dérobe à leur propre chair. Pourtant, ceux-là veulent faire entendre leur voix là-haut, comme Christ parle des pharisiens, qui sonnaient de la trompette devant eux et se défiguraient le visage pour paraître aux hommes comme jeûnant. Mais les liens de l'iniquité demeuraient, la crêle et la dispute demeuraient, frappés des poings de la méchanceté demeuraient, cela faisait entendre leur voix là-haut, et ils avaient leur récompense. Mais qu'est-ce qui conduit au vrai jeûne, qui ne paraît pas aux hommes comme un jeûne, mais au Père, qui voit dans le secret? Le Père qui voit dans le secret récompensera ouvertement. Ce jeûne sépare du jeûne des pharisiens, et de ceux qui courbent la tête un jour comme un roseau. C'est ce qui conduit à donner du pain à l'affamé, et à vêtir ta propre chair quand tu la vois nue, à faire entrer le pauvre dans ta maison, et à délier les liens de la méchanceté, remarquez, voici le jeûne, et à défaire tout fardeau pesant, remarquez encore, et à renvoyer libre les opprimés, voici le jeûne, et à briser tout joug. Quand vous observez ce jeûne, alors votre lumière poindra comme l'aurore, et votre guérison germera promptement, et votre justice marchera devant vous, la gloire du Seigneur sera votre arrière-garde. Alors vous appellerez, et le Seigneur répondra, vous crierez, et il dira, « Me voici, si vous ôtez du milieu de vous le mépris d'autrui et les paroles méchantes, et si vous vous appliquez à nourrir l'affamé et à rassasier l'âme affligée, alors votre lumière se lèvera dans l'obscurité, et vos ténèbres seront comme le midi. » La lumière fait connaître ce jeûne, et en marchant en elle, ce jeûne est observé, et celui qui croit en la lumière ne demeure pas dans les ténèbres. Et de nouveau, le Seigneur te conduira continuellement, il rassasiera ton âme dans la sécheresse, et il fortifiera tes os, tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Isaïe 58, 11. Ce sont ceux qui sont conduits par la lumière, qui vient de Christ là où sont les sources. Et encore, ceux d'entre vous qui gardent ce jeûne rebâtiront les ruines anciennes, et vous relèverez les fondements de nombreuses générations, et l'on vous appellera le réparateur de la brèche, le restaurateur des sentiers où l'on demeure. Ésaïe 58, 12. Or, ce qui donne de voir le fondement de nombreuses générations, c'est la lumière qui sépare de tout ce qui est hors de la lumière, et ceux qui sortent de la lumière, bien qu'ils puissent faire semblant de jeûner et courber la tête pour un temps, sont pourtant loin de ce jeûne qui relève le fondement de nombreuses générations, et qui est le réparateur de la brèche et le restaurateur des sentiers où l'on demeure. Ce qui donne de voir ce fondement de nombreuses générations, et ces brèches qui doivent être réparées et restaurées, et ces sentiers où l'on demeure, c'est la lumière qui amène à connaître le vrai jeûne. Et là où ce jeûne est connu qui est loin de la méchanceté, de la dispute, de la crêle, des plaisirs, des exigences, de la voix qui se fait entendre en haut, des paroles vaines, des liens de l'iniquité lequel brise tout joug et laisse aller libre l'opprimé. Ici la santé croît, ici le matin est connu, la justice s'avance, la gloire du Seigneur. Les eaux n'y manquent point, le Seigneur guide continuellement, et le fondement de nombreuses générations vient à être vu et relevé. Le réparateur des brèches y est attesté, le restaurateur des sentiers où l'on demeure. Mais tous ceux qui sont hors de la lumière dans laquelle étaient les prophètes, par laquelle ils virent Christ, et tel qu'il se trouve dans des jeunes où il y a crêle, où il y a méchanceté, où il y a dispute, où l'on courbe la tête comme un roseau pour un jour, élevant leur voix en haut, tandis que les liens de la méchanceté subsistent encore, les fardeaux ne sont pas déliés, l'opprimé n'est pas laissé libre, le joug n'est pas brisé, la nudité n'est pas vêtue, le pain n'est pas partagé avec l'affamé, et ce fondement de nombreuses générations n'est pas relevé, tant que c'est. Ceux-là ont leur récompense, leurs iniquités les ont séparés de leur Dieu, leurs péchés lui ont caché sa face, de sorte qu'ils ne les écoutent pas, leurs mains sont souillées de sang, et leurs doigts d'iniquité, leurs lèvres ont proféré des mensonges, et leurs langues ont murmuré la perversité. Nul n'appelle à la justice, nul ne plaide pour la vérité, ils se confient dans la vanité et disent des mensonges, ils conçoivent le malheur et enfantent l'iniquité. Ils couvent des œufs d'aspic et tissent la toile d'araignée, celui qui mange de leurs œufs meurt, et ce qu'on écrase fait sortir une vipère, leurs toiles ne deviendront pas des vêtements, et ils ne se couvriront pas de leurs ouvrages. Remarquez et prenez garde, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et l'acte de violence est dans leurs mains, leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la destruction sont dans leur sentier, le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas, et il n'y a point de jugement dans leur démarche. Ils se sont fait des sentiers tortueux, quiconque y marche ne connaîtra pas la paix. Remarquez, de tels s'éloignent de la lumière, c'est pourquoi le jugement est loin, et la justice n'atteint point. Ici règne l'obscurité, ici l'on marche dans les ténèbres, ici l'on tâtonne comme des aveugles, comme s'ils n'avaient pas Dieu, et l'on trébuche à midi dans des lieux désolés, comme des aveugles. Ici l'on rugit comme des ours, et l'on gémit douloureusement comme des colombes, ici l'on attend le jugement, mais il n'y en a point, et le salut est tenu loin, car la lumière est reniée, celle qui donne de le voir. Mais ici se multiplie la transgression, et leurs péchés témoignent contre eux, et la transgression qui était en eux, et leurs iniquités qu'ils connaissaient en transgressant et en mentant contre le Seigneur, disant des choses qu'ils ne devaient pas dire, alors qu'ils savaient, par ce qui est de Dieu en eux, qu'ils ne devaient pas les dire. S'éloignant ainsi de la voix de Dieu, disant l'oppression, se révoltant, concevant et proférant du cœur des paroles de fausseté, ici le jugement est repoussé en arrière, et la justice se tient au loin, la vérité est tombée dans les rues, et l'équité ne peut entrer. Oui, la vérité fait défaut, et celui qui se détourne du mal se fait une proie, le Seigneur l'a vu et cela lui a déplu. Ceux-là sont dans le jeûne que Dieu n'accepte pas, et ils ne sont pas dans le vrai jeûne, dont la lumière jaillit comme le matin, mais ceux-ci sont dans le faux jeûne, qui tâtonne comme des aveugles. Ce qui donne de connaître le vrai et le faux jeûne, c'est la lumière, qui donne l'œil pour voir chacun des jeûnes, là où est le vrai jugement, et où l'iniquité ne subsiste pas, ni le transgresseur, ni celui qui profère des mensonges, mais tout cela est jugé et condamné par la lumière, qui le rend manifeste. Et ceux qui sont dans ce jeûne, lorsqu'ils invoquent le Seigneur leur répond, « Me voici ». Ici la vérité est plaidée et le mensonge s'enfuit. Mais ceux qui sont hors de ce jeûne, dans la perversité, leur langue proférant des choses perverses, trébuchent et tâtonnent comme des aveugles, hors de la lumière, dans l'iniquité qui sépare d'avec Dieu, qui leur cache sa face afin de ne point les écouter, s'éloignant de la lumière, ils s'éloignent du Seigneur et de sa face. Ainsi c'est de cela qu'il faut jeûner, car c'est cela qui sépare d'avec Dieu, et ici vient la rétribution au grand jour, qui condamne tout ce qui est contraire à la lumière, l'injustice, l'iniquité, la transgression, la vanité, et ce qui produit le mal, ce qui couvre des œufs de serpent et tisse la toile de l'araignée, celui qui mange de ses œufs meurt. Remarquez, ce qu'on écrase fait sortir une vipère. Remarquez encore, leurs toiles ne deviendront pas des vêtements, et ils ne se couvriront pas de leurs œuvres de vanité, des actes de violence sont dans leurs mains. Tout cela est hors de la lumière, dans la méchanceté. Leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées de vanité, le ravage et la destruction sont dans leurs sentiers. Tout cela est bien loin de la lumière. Encore, le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas, il n'y a point de jugement dans leur démarche, ils se sont fait des sentiers tortueux, quiconque y marche ne connaîtra pas la paix. Remarquez, celui qui marche dans leur voie, eux qui ne connaissent pas le chemin de la paix, connaîtra-t-il la paix? Dont le sentier est tortueux, où il n'y a point de jugement dans leur démarche, notez bien, point de jugement dans leur démarche, tout cela est hors de la lumière, qui manifeste ce qui doit être jugé, là où l'alliance de paix est connue, où tout ce qui lui est contraire est tenu dehors. Tous ceux qui vivent dans ces choses contraires à la lumière, dans le faux jeûne, peuvent remarquer leur sentier et voir leur récompense, eux qui sont hors de la lumière, trébuchant et tâtonnant comme des aveugles. Ceux qui sont dans le vrai jeûne sont séparés de tout cela, leurs paroles, leurs actions, leurs fruits et leurs jeûnes, mais pour ceux dont le jeûne brise les liens de l'iniquité, que le Seigneur écoute, et pour qui la justice jaillit et marche devant eux, la gloire du Seigneur est leur arrière-garde. George Fox, nous passâmes au pays de Galles par le Montgomeryshire, puis dans le Radnorshire, où il y eut une assemblée d'une multitude si grande que cela ressemblait au siège d'une armée immense. Je m'écartai un peu pendant que le peuple se rassemblait, et John ap John, un Gallois, vint à moi, et je lui demandai d'aller vers le peuple, et s'il avait quelque chose du Seigneur à leur dire, qu'il parlât en Gallois, rassemblant ainsi davantage de monde. Alors Morgan Watkins vint à moi, il s'était pris d'affection pour les amis et dit « Le peuple est aussi nombreux qu'une armée, et les notables du pays sont venus. Je lui demandai aussi de monter là-haut et de me laisser, car j'avais sur moi une grande peine pour le salut du peuple. » Quand ils furent bien rassemblés, j'entrai dans l'assemblée et me tins sur une chaise pendant environ 3 heures. Je restai un bon moment sans parler. Après quelque temps, je sentis la puissance du Seigneur passer sur toute l'assemblée, et sa vie et sa vérité éternelle resplendirent sur tous. Les Écritures leur furent ouvertes, et les objections qu'ils avaient dans l'esprit reçurent réponse. Ils furent dirigés vers la lumière de Christ, l'homme céleste, afin que par elle ils puissent voir leurs péchés, et Christ Jésus être leur sauveur, leur rédempteur, leur médiateur, et venir se nourrir de lui, le pain de vie venu du ciel. Beaucoup furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et vers son enseignement gratuit ce jour-là, et tous furent courbés sous la puissance de Dieu, de sorte que, bien que la multitude fût si grande que beaucoup étaient assis à cheval pour entendre, il n'y eut aucune opposition. Un prêtre était assis à cheval avec sa femme, écouta attentivement et ne fit aucune objection. Le peuple se sépara paisiblement, avec une grande satisfaction, beaucoup disant qu'ils n'avaient jamais entendu un tel sermon auparavant, ni les Écritures ainsi ouvertes. Car la nouvelle alliance fut ouverte, et l'ancienne, ainsi que la nature et les termes de chacune, et les paraboles furent expliqués. L'état de l'Église, au jour des apôtres fut exposé, l'apostasie depuis lors fut mise au jour, et l'enseignement gratuit de Christ et des apôtres fut placé au-dessus de tous les enseignants mercenaires. Et le Seigneur reçut la louange de tous, car beaucoup furent tournés vers lui ce jour-là. De là, j'allai à Leominster, où il y eut une grande réunion dans un enclos, plusieurs centaines de personnes s'étant rassemblées. Il y avait parmi le peuple environ 6 prédicateurs et prêtres congrégationalistes, et Thomas Taylor était avec moi, lui qui avait été prêtre mais était maintenant devenu ministre de Christ Jésus. Je me levai et déclarai pendant environ 3 heures, et aucun des prêtres ne put ouvrir la bouche en opposition, tant la puissance et la vérité du Seigneur les atteignaient et les tenaient liés. Enfin, un prêtre s'éloigna à environ une portée d'arc de moi, il entraîna plusieurs personnes après lui et se mit à leur prêcher. Ainsi je tins notre assemblée et lui la sienne. Au bout d'un moment, Thomas Taylor fut poussé à aller lui parler, cela le fit s'arrêter, et lui et les gens qu'il avait entraînés revinrent vers nous. La puissance du Seigneur passa sur eux tous. Enfin, un baptiste convaincu dit « Où est le prêtre Ton? Pourquoi ne vient-il pas ?» Ce Ton était le prêtre de Leominster. Alors des gens allèrent le dire au prêtre, qui vint avec les baillis et d'autres officiers de la ville. À son arrivée, ils le placèrent sur un tabouret en face de moi. Je parlais de la lumière céleste et divine de Christ, par laquelle il éclaire tout homme venant dans le monde, afin de leur donner la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ Jésus leur Sauveur. Quand le prêtre Ton entendit cela, il s'écria, « C'est une lumière naturelle, une lumière fabriquée. » Alors je demandai au peuple de sortir leur Bible, et je demandai au prêtre s'il affirmait que la lumière de Christ était une lumière créée, naturelle, fabriquée à laquelle Jean, homme envoyé de Dieu, rendit témoignage quand il dit, « En lui, à savoir dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1, 4. Affirmez-vous et entendez-vous, dis-je, que cette lumière dont il est parlé ici était une lumière créée, naturelle, fabriquée? Il répondit oui. Alors je montrai par les Écritures que la lumière naturelle, créée, fabriquée est la lumière extérieure dans le firmament extérieur, procédant du soleil, de la lune et des étoiles. Et persistez-vous à dire, dis-je, que Dieu a envoyé Jean pour rendre témoignage à la lumière du soleil, de la lune et des étoiles? Alors, dit-il, ai-je dit cela? Je répliquai, n'avez-vous pas dit que c'était une lumière naturelle, créée, fabriquée, à laquelle Jean rendait témoignage? Si vos paroles ne vous plaisent pas, retirez-les et changez-les. Alors il dit, cette lumière dont j'ai parlé était une lumière naturelle créée. Astérisque, je lui dis qu'il n'avait nullement changé sa position, car la lumière dont je parlais était précisément celle à laquelle Jean fut envoyé de Dieu pour rendre témoignage, laquelle était la vie dans la parole, par laquelle toutes les lumières naturelles, comme le soleil, la lune et les étoiles, ont été faites. En lui, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je dirigeai le peuple à se tourner vers l'endroit dans leur Bible, et je leur récitai les paroles de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ainsi toutes les lumières naturelles créées ont été faites par Christ la parole. » En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et c'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et Christ dit de lui-même, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde », et il leur commande de croire en la lumière, Jean 12, 36. Et Dieu dit de lui par le prophète Ésaïe 49, 6, « Je t'établis aussi pour être la lumière des nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi Christ dans sa lumière sauve. » Et l'apôtre dit, « La lumière qui a resplendi dans leur cœur était pour leur donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, c'était leur trésor dans des vases de terre. » 2 Cor 4, 6, 7. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Voici un autre faux prophète typique qui n'a jamais vu la lumière de Dieu. Il insiste donc pour dire que les références bibliques à la lumière se rapportent à une lumière naturelle, mais la Bible établit une distinction claire entre la lumière naturelle du soleil et de la lune, et la lumière de Dieu ou de Christ. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y luire, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, Apoc 21, 22-24. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lune ne te donnera plus sa clarté pour éclairer, mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe 60, 19. Oui, les ténèbres ne te cachent rien, mais la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres et la lumière sont pour toi la même chose. PS 139, 12 Pourquoi ne peuvent-ils pas entendre la parole dans leur cœur? Pourquoi n'ont-ils pas de lumière pour voir les révélations de Dieu? Parce qu'ils enseignent des erreurs, menant les autres en captivité et à la destruction, et se trouvent ainsi condamnés à la captivité eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais été appelés, jamais enseignés, jamais envoyés par le Seigneur. Parce qu'ils prêchent pour de l'argent dans leur cupidité, afin d'être admirés des hommes. Parce qu'ils dominent leurs assemblées. Parce qu'ils sont comme les pharisiens, des conducteurs impurs, non purifiés, hypocrites, qui extérieurement paraissent justes, mais qui sont des hypocrites dont le cœur est plein de méchanceté et d'iniquité péché. Parce qu'ils sont des ennemis de la croix, et que leur Dieu est leur ventre, leur convoitise et leurs affections, et que leurs pensées sont aux choses terrestres. Quand j'eus ainsi exposé la chose au peuple, le prêtre cria au magistrat, « Emmenez cet homme, sinon je ne parlerai plus. » Mais dis-je, prêtre-t-on, ne vous abusez pas, vous n'êtes pas en chair maintenant, ni dans votre ancienne maison de messe, nous sommes dans les champs. Alors il s'agitait pour partir, et Thomas Taylor se leva et entreprit de prouver notre principe par la parabole de Christ concernant le semeur, Matt 13, 1, 30. Puis le prêtre dit, que cet homme parle et non l'autre. Ton se mit alors à débiter pendant un moment des absurdités doctrinales, jusqu'à ce que la puissance du Seigneur le saisit de nouveau, l'arrêta et le confondit. Alors un ami se leva et lui dit qu'il l'avait poursuivi pour des œufs de dîme et qu'il avait poursuivi d'autres amis pour d'autres dîmes, car c'était un prédicateur anabaptiste, et pourtant il avait un presbytère à Leominster et plusieurs compagnons sous lui. Il dit, « Ton avait une épouse, et il avait une concubine, son épouse c'était le peuple baptisé, et sa concubine c'était le monde. » Mais la puissance du Seigneur passa sur tous, la vérité éternelle fut annoncée ce jour-là, et beaucoup furent tournés par elle vers le Seigneur Jésus-Christ, leur maître et leur chemin vers Dieu. Cette assemblée fut d'un grand service dans ces contrées. Le lendemain, Thomas Taylor alla trouver ce prêtre, raisonna avec lui, et le vainquit par la puissance de la parole. Back next.